Salut les auditeurs, nous sommes jeudi 25 juin 2015, il est 18h30 et vous êtes en direct dans notre 27e émission sur Radio On.
Radio On.
27, quel nombre ? 27, un cube parfait de côté 3 puissance 3. 27, le premier nombre composé qui n'est divisible par aucun de ces chiffres. 27, le nombre de droites se trouvant sur une surface cubique lisse. 27, un nombre décagonale. 27, le résultat magique d'un carré magique d'inverse de nombre premier des multiples de 1 sur 7. Le 27e préfixe grec, Icosicaï Hepta. Le 27e satellite de Jupiter, Sinope. 27, le nombre de pays adhérents à la communauté européenne. 27, le département français de l'Eure. 27, le nombre de lettres de l'alphabet espagnol. 27, le numéro de l'autoroute française qui part de l'A1 à la hauteur de l'Esquin pour atteindre la Belgique. Vous situez ? 27, le nombre total de livres du Nouveau Testament. 27 Club, nom donné au groupe des célébrités décédées à l'âge de 27 ans, comme Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Heath Ledger ou encore James Dean. 27, c'est aussi et surtout le nombre d'années de mariage des noces d'acajou. Bref, vous êtes en direct de la 27e émission de Radio On, la dernière de cette année scolaire. La dernière mais non la moindre, on quitte ce soir, une fois de plus, l'anonymat de notre cher studio radio, et on se donne à voir. Et pour l'occasion, nous nous sommes imposés 27 contraintes d'écriture différentes pour cette émission. À entendre aussi, bien sûr, en public et en direct, du grand hall de l'école des Beaux-Arts du Mans. C'est Festival sur Radio On, ça commence. Rucus. Rucus le chahut. Rucus, le groupe de country rock américain. Rucus, l'entreprise de produits Wi-Fi. Rucus, la société d'entraînement aux techniques d'activisme politique. Rucus, le mutant humain des Marvel Comics qui peut absorber et renvoyer les ondes sonores. Rucus, le Decepticon qui se transforme en buggy. Rucus, le nom de scène du catcheur Claude Marot. Rucus, le scooter fabriqué par Honda en 2002. Rucus, le thriller de 1981, mais surtout Rucus, à Paris, dans le 13e, nommé en l'honneur de l'ancien maire de Strasbourg, Émile Cus. Et puis, bon, Rucus, le groupe électro-pétillant des Beaux-Arts du Mans avec Arnaud, Benoît, Thomas et Maxime qui vont nous faire un petit live.
Merci donc à Rucus. Et dès maintenant, cette émission sera ponctuée de pastilles, non contre la toux, mais bien sonores. Restitution du workshop Espace-son des Propédotes. Elles seront toutes annoncées par ce jingle.
Workshop volume son, première année.
Suzanne a des fleurs pour une amie aimante et fidèle que le curé veut toucher.
Quoi ?
Quel connard !
Mais quel connard !
On ne peut pas leur faire confiance.
Ce sont les curés. Mais ça, tu vois, ça me rappelle Camille.
Pourquoi ?
L'autre fois, Camille, elle est montée dans le tiroir à droite et elle a remis son pantalon sur sa cuisse.
Quoi ?
Elle est grave.
Elle est complètement tarée. Au fait, tu leur as dit ?
La jeune femme de 20 ans
Camille.
Est la seule qui a une odeur de strength. Enfin bref, t'as des nouvelles de Morissette ?
Parlons-en. Morissette et Suzanne, je les ai vues. Elles se branlaient elles-mêmes avec le curry. Dans le camion de bétail. Où il y a eu l'accident,
pas chez moi.
Non.
Radio.
Dio.
Radio.
Radio On.
Du 14 au 16 mai dernier.
Et on ne parle pas de nourriture.
La 10e édition du festival Harmonica sur chair.
Quoique pas hors de prix.
S'est tenue à Saint-Aignan.
Toute responsabilité quant au contenu de ce que vous allez entendre.
Enquête radiophonique par Jeanne Minier.
Mais pas l'autre moitié.
Et Wendy Autric.
Je m'appelle Christophe Minier, je suis le directeur artistique du festival Harmonica sur chair. Le festival, c'est moi qui en suis le cofondateur. On a lancé ça il y a 12 ans maintenant avec Julien Cormier. On s'est rencontrés là pour faire une soirée dédiée à l'harmonica avec une première partie, moi je jouais dans la tenue de jazz. Julien ensuite a fait un passage en blues, et ensuite moi j'ai terminé avec le groupe de rock Mescal. Et puis on s'est fait une soirée, il y avait une trentaine de personnes, mais dans mon esprit c'était déjà en fait un festival, quoi. Je voyais tout de suite l'idée, l'envie de programmer des musiques différentes, mais avec un instrument central. Devenu directeur artistique sur le terrain, parce que j'avais aucune compétence particulière, à part d'être musicien, à part de jouer de l'harmonica, et à part de connaître beaucoup de monde, avec mon métier d'infirmier libéral que je faisais à l'époque, je connaissais effectivement tous les gens dans les associations, dans les municipalités. Ce qui est technique, c'est des professionnels. Une partie de la communication, donc la réalisation des affiches, des programmes, elle est assurée par Katakri. Le reste est bénévole. En fait, moi je suis bénévole, tout le monde est. Dans l'organisation, en fait, tout le monde est bénévole. Quoi. Donc là, on se retrouve toujours avec la même équipe, enfin avec une grande partie de. On va dire les piliers de l'association qui sont aussi les piliers du festival, mais c'est sûr que ça ne pourrait pas se faire aussi bien. Ça, la programmation, c'est le côté le plus sympa. Enfin, il y a deux trucs vraiment sympas. Il y a faire la programmation et puis voir les concerts. Donc, je reçois des propositions, j'écoute des choses, et quand ça me plaît, ben, je mets de côté, je note. Et puis, au bout d'un moment, quand arrive le moment de faire la programmation, donc à peu près un an avant le festival, là, je commence à trier, à contacter les artistes. Ce qui est important, c'est la qualité de ce que les artistes donnent. Je disais tout à l'heure je parlais de lien social. C'est vraiment ça aussi qui vaut le coup d'être vécu. Pour être ensemble, pour se faire des histoires ensemble, pour vivre ensemble, quoi. Et quand en plus c'est avec des artistes qui sont des gens souvent assez, pas tous, mais souvent ils sont quand même assez intéressants, ils voient du pays, ils nous font voyager en fait. Parce que nous on est là, on connaît notre coin de terre, mais eux ils ont vu 1000 autres coins de terre et ils nous racontent leurs histoires, leur vie. Un festival comme ça fait beaucoup de rencontres. En pas longtemps, c'est très concentré, mais c'est très très riche. Souvent, il y a beaucoup d'artistes qui nous disent que, en fait, ici, il y a un truc spécial, quoi. C'est un festival qui est vraiment chaleureux au possible. En plus, le centre de Saint-Aignan est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville médiévale qui est très jolie. Tombe un peu en ruine, mais qui est très jolie, avec des petites rues pavées, des vieilles maisons, tout ça. Et donc, du coup, il y a un peu d'ambiance dans les rues, des concerts dans la journée. Et du coup, on a la ville qui vibre pendant ces 3 jours. Et quand les gens viennent de l'extérieur, ils disent waouh, c'est drôlement bien ici. Il y a de la vibration, quoi. Et quand tu restes le reste du temps, la nuit, tu dis bref, pas toujours. Donc cette année, on a eu vraiment l'impression que... Alors c'était la 10e édition, mais au-delà de ça, qu'il y avait vraiment un fort engouement, je dirais. que j'ai pas toujours ressenti, et là c'était vraiment important. Globalement, c'est positif. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je me tâtais savoir l'avenir, quoi. Essayer de savoir si continuer, pas continuer. C'est toujours une question que je m'étais dit, ou si ça devient aussi difficile que ça, est-ce que moi, je vais avoir la force de me battre pour aller chercher des financements Bon, finalement, vu l'engouement de tout le monde m'encourage, je me dis, allez, vas-y. Et le truc, c'est que on me dit que si moi je le fais pas, personne le fera.
Du coup, dans 2 ans?
Oui, j'espère. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite.
Workshop. Volume et son. Première année.
Quel vieux, ça
affiche-moi
la paix.
En veille, comme la veille, comme tout à l'heure, comme une minute plus tard, comme vers 4 heures, comme le soir.
Oui, l'avant-veille, comme la veille, comme tout à l'heure, comme une minute plus tard, comme vers 4 heures, comme le soir. En voilà une cochonnerie. Salut go Zizi.
Mais pourquoi l'appelles-tu Zizi?
Bah...
Oh non, fiche-moi la paix.
Faut bien que tout le monde vive. Le cœur sautant d'émotion.
Il n'en a pas autant que moi, ce pauvre.
L'avant-veille. Comme la veille, comme tout à l'heure, comme une minute plus tard, comme vers 4 heures, comme le soir.
Oui, l'avant-veille, comme la veille, comme tout à l'heure, comme une minute plus tard, comme vers 4 heures, comme le soir.
Vous n'êtes donc pas dégoûté par ce morceau?
Ce bon vieux Zizi ne m'oublie pas, lui.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce cochon?
Moindre tort, au contraire.
Mais bon sang, tu vas arrêter de remuer, oui?
Oh, est-ce que c'est d'un coup?
Ce n'est pas de ma faute s'il si y a des miettes.
Imbécile, c'est du propre.
Après la trapade, tu as donc mis du sel. Désormais, c'est tout rouge.
Ouais, c'est sale.
C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre quelque chose murmurer.
L'avant-veille, comme la veille, comme tout à l'heure, comme une minute plus tard, comme vers 4 heures, comme le soir.
Oui, l'avant-veille, comme la veille, comme tout à l'heure, comme une minute plus tard, comme vers 4 heures, comme le soir.
Et en attendant le live d'Antoine et Thomas, un petit jingle.
Radio On.
Et tout de suite, retrouvons Infrastructure, qui nous tentent par leur triste tribulation tentaculaire tant attendue. Toute tentative de détachement face à ces tripatouillages tarabiscotés se traduira tardivement par le terme de ton trajet.
Workshop volume et son, première année.
Algèbre, analyse, chapitre 1, équation du second degré.
Un triangle ABC est équilatéral. Les arcs d'un cercle sont des grandeurs mesurables.
L'expression de la forme existe.
Chapitre 3, équation et système conduisant à une équation du second degré. Chapitre 4, trinôme du second degré.
L'équation horaire.
Chapitre 5, problème du second degré. Chapitre 6, fonction et généralité.
On démontre une condition définie sur un intervalle que la conséquence signe le segment nul.
Chapitre 11, mouvement rectiligne.
La nature du mouvement, toujours uniformément, se trouve lancée, déterminée, donnant l'inégalité vérifiée.
Chapitre 12, arc et angle orienté.
Une équation admet l'expression de leur produit racine distinct.
L'équation du mouvement rencontre l'instant, toujours uniformément, se trouve lancée.
On appelle la forme des coefficients
dans l'inégalité vérifiée, montrant l'instant obtenu étant aussi grand à cet axe satisfaisant. L'équation du mouvement rencontre l'instant, rencontre l'instant,
rencontre l'instant, rencontre
l'instant,
si elle existe.
Bossu bien bedonnant que ce bébé Bowie dans Space Oddity, un bon direct dans la mâchoire de Mallory. Bravo. Mallory, une nouvelle fois, fait face à la foule et fait fi des fanfaronnades et fadaises fallacieuses, des facéties futiles, des pharaons frimeurs pour nous faire profiter de l'armée des sept nations par les rayures blanches.
Workshop, volume et son, première année.
Écoutez ce que disent aux fianteurs les murs de nos cabinets.
Chieur, foireux, répugnant, si tous tes trous béants, tu ne torches avant ton départ tes trous.
Il n'est dit, Gargantua, pas besoin de se torcher le cul s'il n'y a pas de saleté. De saleté, il ne peut y avoir si l'on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant que de nous torcher le cul.
Les meilleurs d'entre tous, c'est celui à poil, car il absterge excellemment la matière fécale.
En chiant l'autre jour, j'ai flairé un Pokémon qui réclamait. j'espérais un autre bouquet. Je fus belle empestée. Oh, si on m'avait amené cette fille que j'attendais en chiant, j'aurais su lui accommoder son trou de vin en bongoré.
Pendant ce temps, c'est toi, aurais
mon trou de merde qui paie en chiant.
En voulez-vous davantage? En voulez-vous davantage?
En voulez-vous davantage?
Mais pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveteux, pourvu qu'on tienne la tête entre les jambes.
Et si Radio On n'était pas Radio On?
Et si Radio On était un tabouret?
Veuillez cesser incessamment vos simagrées insensées pour saluer ce cher Sacha. Succulent soutien sonore sans fléchissement des initiés étudiantes, un saut stupide des disciples des slips, Sacha Gatineau, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, vous êtes l'un des deux enseignants avec Kate Blaker à avoir soutenu le workshop Espace-son des premières années qui a eu lieu il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'est un workshop qui s'est fait sur 3 jours. Avec 2 jours de production et une demi-journée de présentation de références et de corpus pour les étudiants et une demi-journée de restitution. Donc c'est un workshop qui est très court, avec beaucoup d'étudiants, puisque c'est les premières années. Et donc on a opté pour une proposition qui permettait d'être suffisamment low-tech pour ne pas avoir à se préoccuper d'une logistique un petit peu technique, on va dire. Donc travailler le son low-tech avec Kate et en même temps en volume, en image, on a fait une proposition qui était de travailler à partir d'un par groupe. Ils devaient choisir un livre, hein, alors un livre de leur choix, roman, poésie, un essai, des manuels techniques parfois, et à partir de ce livre, ils devaient se réapproprier ce texte, hein, un petit peu à la manière du cut-up, et donc à partir de ce texte, faire une réécriture en fait de ce texte, un peu comme une partition, qu'ils devaient donc performer face à tous leurs collègues et à nous-mêmes. Voilà, l'idée était de leur faire prendre un petit peu conscience des différents enjeux qui cohabitent et qui dialoguent lors d'une performance, hein, à la fois le travail sur la voix, sur le texte, sur une mise en scène, la lumière, des costumes, des accessoires éventuels, évidemment la notion d'espace, hein, et puis puisqu'il devait partir d'un texte existant, les enjeux qu'il peut y avoir dans le recyclage, hein, ce qu'on peut appeler recyclage aujourd'hui, ou réappropriation, détournement, hein, que faire avec quelque chose qui nous appartient pas originellement, comment lui donner une lecture singulière et puis réactiver en fait ce livre en question, hein. Donc il y avait effectivement parmi ces livres, on a eu L'homme à l'envers de Fred Vargas, un manuel de mathématiques, L'amant de Marguerite Duras, Sur la route de Jacques Kerouac, Nana de Zola, Gargantua de Rabelais, Le livre secret des fourmis de Bernard Werber et un cahier manuscrit scolaire de biochimie, chirurgie, datant des années 30.
C'était aux étudiants de choisir le livre.
Voilà, ils devaient au préalable, en groupe, choisir un objet livre, hein, qui leur permettait d'être la base de travail, de leur travail.
Et d'où est-ce qu'elle est venue cette idée de travailler avec Kate Blaker, du coup, et de faire cette relation entre volume et son et de donner ça à faire aux premières années? C'est l'initiative duquel d'entre vous?
Je crois que ça fait partie des croisements souhaitables dans une école d'art, que de croiser des disciplines qui sont après tout connexes, qui ont des choses à dire ensemble. Donc le volume, l'espace, l'objet, comme dans la musique, il y a aussi tout ça, hein. Il y a les notions de lutherie, il y a la notion d'espace scénique, d'espace tout court. Voilà, je crois que on a fait un premier workshop l'année dernière et puis on a continué cette année.
Et juste pour conclure cette courte interview, du coup, satisfait du résultat de ce que vous avez pu entendre?
Je crois qu'il faudra demander plutôt aux étudiants, mais il me semble, vu leur engagement sur les 3 jours, que je pense que ça a pu leur en tout cas leur donner des pistes de réflexion quant à leur pratique. Voilà.
Et on leur souhaite de continuer à faire du son. Merci beaucoup, Sacha.
Merci à vous.
Workshop Volume et Son, première année.
On déshabille le malade par le côté sain.
Par éclat d'obus, une communication peut s'établir. Constituée comme les épiphages, leur gravité est variable suivant l'organe atteint.
Les plaies par éclat d'obus sont les plus graves dont le projectile est irrégulier.
D'autres fois, le projectile reste dans la plaie, joue le rôle de corps étranger et aggrave l'infection.
Le blessé est en état de choc.
Il faut se méfier.
Il y a un orifice d'entrée du projectile et une sortie.
La première est accélérateur.
La deuxième, freinateur.
Le bistouri électrique placé dans l'angle terne de l'œil recueille les larmes.
Le blessé se plaint.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend ? C'est Radio On.
Quand le chameau hurle, quand le dromadaire vocifère, quand l'alpaga s'égosille, quand le lama crache, quand on crayonne les Marlboro, quand Munch s'embrouille, quand le prisonnier bossu s'esclaffe, Kamel zécrit.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti des rituels, donc que ce soit le rituel du Diwen, qui est celui dont je suis issu et qui m'a permis de comprendre les autres, et puis aussi l'expérimentation du Festival de l'eau, qui est un rituel que je me suis inventé, que j'ai, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ce serait un nouveau rituel maintenant? Et j'ai traversé ces 20 années en faisant des rencontres et en faisant des rencontres sur l'oralité. Donc je fais un travail sur les oralités. Je dis bien les oralités parce que c'est les oralités interafricaines, puisque j'ai fait venir des musiciens de différentes régions d'Afrique qui eux-mêmes auraient été comme un Européen quand ils arrivaient et qu'ils rencontraient certains musiciens africains, ils ne comprenaient rien à leur rythme, ils ne comprenaient rien non plus. Alors que chez eux, c'est des grands maîtres, des grands rythmiciens. On croit que justement... L'Afrique, c'est des fois un pays, mais c'est un continent. Il y a des univers où les uns et les autres, ils n'ont vraiment rien à voir. Moi-même, pour ma propre, je dirais, pour mes propres mythes, j'ai fait cette démarche pour les remettre dans leur réalité et vraiment... pouvoir construire un projet artistique qui n'est pas dire je fais un morceau, je fais ci ou je fais ça, non. C'est sur tout le long de ma vie. Je continue encore aujourd'hui. Et puis surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les langues, quand on chante dans le Diwen, on ne chante pas en arabe. On chante dans ce qu'en arabe on appelle l'ajmi, c'est-à-dire le veau, parce que c'était la cérémonie du veau. Et donc c'est des langues subsahariennes. Et quand moi, la première fois que je suis arrivé à Niamey et que j'ai chanté avec... mes amis nigériens, les chants justement du Diwen, chacun chantait un chant comme ça. Je dis, j'ai commencé à chanter, j'ai pris un chant, et Marie Chegia, et tout le monde m'a répondu, Marie, et Marie, Hegno, Marie. Vous connaissez cette chanson? Non, mais quand tu dis Marie Chegia, on répond Marie, c'est comme ça. Ah mince, et nous, on chante, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Les chants nous ont été transmis, on a perdu la langue, puisqu'on ne parle plus ces langues-là. Puisque après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bascule avec la colonisation. L'Algérie regarde vers le nord.
ne regarde plus vers le sud. Donc les langues, les coutumes, les traditions, les cérémonies, tout ça, ça s'est coupé en fait. Et voilà, et dans ce travail que je fais en croisant les musiciens, il y a ces réminiscences qui sont immédiates, tac, c'est une immédiateté. Les gens comprennent que là, il y a eu des liens. Et voilà. Là-dessus, il y aurait des choses à dire. C'est qu'en fait, le rituel, bon, maintenant qu'on peut dire ancien, même s'il existe encore, il ne va plus exister encore très longtemps, il a sa légitimité. Il a sa légitimité dans les objets. Et donc ça, c'est très important. Tu parlais de la danse, des couleurs, les robes, tout ça. La légitimité, elle est là. Et souvent, ceux qui sont les gardiens de ça, ils sont les objets pour la danse, pour les trans, tout ça. Ils rangent ça dans une pièce. Cette pièce, elle est presque sacrée. C'est ça qui donne la légitimité. Maintenant, la transformation, donc quand on voit des festivals, des saouras, tout ça, ben la légitimité, elle est passée ailleurs. La légitimité, elle est passée ben dans jouer dans un grand festival, vendre des disques, passer à la télévision, passer à la radio. La légitimité, elle est là. Et il y a eu un transfert de certains musiciens qui sont partis du rituel, qui sont allés là. Mais il y a eu aussi des nouveaux musiciens qui ne viennent pas du rituel et qui sont arrivés là aussi et qui représentent maintenant ces musiques, alors qu'eux-mêmes, ils n'en sont pas issus. Donc, c'est, voilà, aussi, on navigue aussi dans des choses comme ça, et peut-être que certains musiciens des rituels, ils aiment bien leurs instruments, ils aiment bien leurs objets, parce que c'est ça qui incarne la légitimité du rituel et de la musique. On dit que le musulman de Mahomet donc, aurait inventé des carcabous parce que Ali, son frère, s'était fâché avec sa femme et sa femme s'est enfermée dans une pièce. Et pour la sortir de cette pièce, parce qu'ils n'y arrivaient pas à la faire sortir, eh bien, il a inventé cet instrument-là et il a commencé à jouer. Hein. Et elle, par curiosité, quand elle a entendu ça, elle s'est demandé ce que c'était et elle est sortie. Symboliquement, on l'a rattaché donc à l'islam, comme toutes les traditions hein, d'Afrique du Nord, puisque par exemple les chants d'introduction sont toujours des chants de louange au prophète. Avant, je jouais avec un médiator, je faisais du jazz rock même. Moi, je ne suis pas issu du jazz, je suis plutôt issu du jazz rock. J'étais j'étais un fan des John McLaughlin, tout ça. J'allais voir en concert des Mola, des trucs que maintenant j'écoute plus, mais que voilà, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait une virtuosité, quelque chose. Et puis quand je me suis retrouvé, en studio, et en studio, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai changé de technique sur l'instant. C'est-à-dire que physiquement, je ne pouvais plus jouer avec le médiator.
Workshop. Volume et son. Première année.
Cette encyclopédie, enfin reconstituée.
Au nom de l'abracadabra ! Nous sommes tous pareils. Prédateurs, guerriers, omnivores, râteaux, roi des rats, termites, tropies tactiles, vieillards, premier maître du monde, zéro, moustique, dieu, dinosaure, avenir, labyrinthe, perception des couleurs,
et la suivre, toucher,
sommeil, paradoxal, république des idées, victoire.
Peut-être est-il temps de passer par la langue, les papis, le palais pour palabrer plus pointilleusement en la compagnie de notre ami papapa ni papou, Claude et ses petits potins linguistiques. Hélas, nous ne parlerons pas polonais, ni pictou persan, pas plus que pilipino, papiamento ou pampangan, mais nous converserons arabe, italien, français, espagnol et anglais avec Mehdi Largo et des locuteurs de ces langues. Mais avant, je converserai moi-même autour du livre « Épépée » de Ferenc Karenti avec Claude.
Bien, Lucas Burtin, il me semble que tu as lu un livre.
Oui, oui.
Et ce livre s'appelle « Épépée », tu viens de le dire. Donc c'est un livre de Ferenc Karenti, c'est comme ça qu'on prononce ?
J'ai encore un peu du mal parce que donc, c'est un auteur hongrois.
Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu égaré. On pensait demander à un fils d'ancien tchèque de nous donner la prononciation de Ferenc Karenti, mais en fait, l'auteur est hongrois. Il n'est pas tchèque. Donc, alors, que raconte ce livre, Lucas ?
Donc, c'est un homme, un linguiste, qui arrive en avion dans une contrée qu'il ne connaît pas, pensant arriver en Finlande, à Helsinki. Et il se trouve face à une culture, une langue et une écriture qu'il ne connaît pas.
Voilà, oui, c'est ça. Hein. Il est hongrois, il est linguiste, il va à un colloque de linguistes et il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc, quand il atterrit dans un pays, il s'aperçoit dans l'autocar entre l'aéroport et l'hôtel qu'il ne reconnaît absolument aucun des caractères. Et il arrive dans son hôtel, on lui remet de l'argent qu'il ne connaît pas, en échange de sa monnaie hongroise, et puis il va passer donc quelques semaines dans ce pays. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive ?
Pendant cette semaine, il découvre la culture. À l'origine, déjà, il commence, il cherche à comprendre ce langage, dont il ne trouve aucune familiarité avec aucune autre langue.
Et il faut dire qu'il connaît une vingtaine de langues.
C'est un linguiste, ouais. Et ensuite, donc, il va aller à la rencontre de cette culture qu'il ne connaît pas non plus, mais dont il arrive à, dont il saisit, dont il essaie de, à laquelle il essaie de faire des rapprochements avec des cultures qu'on connaît nous-mêmes.
Je suis pas sûr qu'il aille à la rencontre de la culture. Il cherche à survivre.
Bah, il se retrouve face à cette culture, en tout cas. Il y a un passage quand il arrive dans un lieu de culte où il essaie de se raccrocher à des
Oui, il essaie de savoir de quelle église il peut bien s'agir.
Ouais, mais
en tout cas, on s'aperçoit assez vite que c'est extrêmement difficile de se retrouver dans cette situation et qu'il doit survivre. Et donc, il fait des petits boulots pour gagner un peu de sous. Il s'est rendu compte qu'il y avait un endroit dans la ville où on avait besoin de gens qui portent des caisses.
Une sorte de marché.
Et donc, il est un petit peu payé. Il peut s'acheter un peu à manger. Mais il finit quand même un peu clochard.
Ouais, oui, il va même en prison. Il finit incapable de survivre dans un monde dont il ne connaît ni la langue, ni l'écriture.
Voilà. Oui, c'est infernal. Donc, tu recommandes ce livre à la lecture ?
Bah, oui.
Et tu nous lirais un petit passage pour donner envie à nos auditeurs de se précipiter sur ce livre aux excellentes collections dans l'excellente édition Zulma Et ce livre, je dois dire, qui m'avait été recommandé par la libraire de l'Herbe entre les dalles quand je lui avais parlé de cette chronique polyglotte.
Donc c'est un passage relatif à l'écriture qu'il essaie de déchiffrer du coup. Il ne peut même pas déterminer s'il s'agit d'une écriture alphabétique comme les langues européennes, d'une écriture syllabique comme le japonais par exemple, ou d'une écriture idéographique comme le chinois, ou encore d'une écriture n'utilisant que des consonnes à la manière du sémitique et de l'arméen ancien. Une nouvelle fois pourtant, il est frappé par les chiffres arabes qui apparaissent dans le texte.
Et tu as noté quelque part des exemples de mots, hein, EPP en fait,
ouais, c'est des... J'ai des exemples. EPP, c'est une sonorité qu'il entend régulièrement. On l'associe à un moment donné à une femme qu'il rencontre.
Oui, il réussit quand même à avoir une petite histoire d'amour.
Il réussit à avoir une petite
avec histoire avec une liftière.
Donc j'ai fait une petite liste de...
Mais ils font l'amour dans le noir.
On ne sait pas pourquoi.
Mais si, il y a une panne d'électricité. Et elle vient le rejoindre.
Je crois que c'était... Non, bon,
ah, moi, tu l'as lu plus récemment que moi.
Ouais,
peut-être que
ça
j'ai...
fait déjà quelques mois. Déjà. Donc, EPP, EBB, Etietie, Dia, Dia, Diadi, Patia, Gia, Guabou, VV, Terre, Ple, Boe, Boe, Goulou, Goulou, Glou, Loub, Turubu, Tchei, Tchei, Ke, Tcho, Bobo, Kiripidou, Labadara, Parachara. Ouais, je ne maîtrise pas forcément la prononciation, hein, je suis désolé. Ça reste un bouquin.
Bien, on s'est aperçu qu'il y avait des chiffres arabes, donc on a entendu ça, donc on va enchaîner avec Mehdi, peut-être.
Avec Mehdi, oui.
Donc Mehdi, Mehdi, je vais te dire Kroniapola. Kroniapola, c'est du grec. Hein, j'ai un ami grec qui me dit souvent Kroniapola, ça veut dire beaucoup d'années. Kronia, en grec, le A, c'est la marque du pluriel. Donc on a deux pluriels, hein, Kroniapola. Et alors, je vais en profiter pour dire Kroniapola à tous les récents diplômés mentionnés et félicités, dont tu fais partie. Et donc j'avais pensé depuis un moment, Mehdi, à faire une émission, une chronique polyglotte autour de toi, puisque tu as traversé plusieurs langues. Puisque tu es né au Maroc, tu as appris donc l'arabe comme langue maternelle, tu es arrivé en Italie à l'âge de 8-10 ans, 6 ans, tu as appris l'italien, et ensuite tu es venu en France, tu as appris le français, et l'année dernière tu es allé au Mexique, donc tu as appris l'espagnol. Donc j'avais eu l'idée, et puis tu parles aussi assez bien anglais, je crois. J'avais eu l'idée de te faire parler en arabe avec une arabe qui est à côté de moi là, de l'autre côté, et qui n'est pas tellement avec laquelle finalement tu n'as pas beaucoup de points communs, puisque Tammy est syrienne. On a regardé tout à l'heure avec Tammy, entre le Maroc et la Syrie, il y a dans l'itinéraire Google Map, hein, nous donne Tammy.
6165 km.
Et ce qui est amusant, hein, Tammy, tu as remarqué
que ça faisait un itinéraire qui passait par l'Europe plutôt que par l'Asie, l'Égypte et la Tunisie.
Et d'ailleurs, c'est bien en Europe que vous vous rencontrez. Hein, donc vous ne vous parlez pas souvent à l'école, hein, peut-être même jamais. Et donc j'avais déjà eu plusieurs fois, et j'avais essayé de vous faire parler tous les deux. En fait, vous avez la langue arabe en commun, mais c'est à peu près tout. Et vous la mettez pas en commun.
Mais même en fait, au niveau de la langue, en fait, on a juste les racines. En fait, c'est-à-dire que dans la langue marocaine, par exemple, puisque du coup
alors,
il y a eu
un
beaucoup.
Exemple.
En fait, puisque dans la langue en Maroc, en fait, il y a eu quand même la colonisation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment les mots ont changé vachement en fait par rapport aux différentes langues en fait qui ont été en Europe. En Maroc.
Donc,
par exemple, cousina. Cousina, c'est la cuisine, et c'est le Maroc, c'est le mot marocain. Sinon, normalement, c'est le mat'am. Donc, c'est ça, c'est bien mat'am.
La cuisine.
Ouais.
Non, c'est plutôt la cuisine, c'est matbakh.
Matbakh. Ouais. Donc, ouais, en fait, ça dépend. Ah quoi? Oui, c'est vrai.
Mat'am,
c'est
le
restaurant, c'est bien ça. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de différences en fait au final entre.
Oui, mais en fait, la Syrie aussi, elle a été sous mandat français, mais c'était, je pense, pour 25 ans. Ou 26 ans, alors on n'a pas beaucoup de mots arabes, franciser, je ne sais pas comment dire le verbe. Ouais. Mais oui, en Algérie et en Maroc, je pense que c'est plutôt... ils ont pris beaucoup de français, ils ont mélangé un peu leur langue et on a un peu de mal à comprendre. Sauf si on parle vraiment l'arabe littéraire, qui est commun pour...
Oui, pour tout le monde, pour en fait. Pour après, tous les arabes. Ça s'apprend à l'école,
s'il vous plaît, un petit exemple d'arabe littéraire.
À toi le plaisir. Moi, je ne le connais pas vraiment, en fait, l'arabe littéraire. L'arabe. Je connais un peu, mais pas énormément. Moi, je parle plus
là, marocain. Là, c'est un poème d'Adonis, qui est en arabe. Là, c'est vraiment du littéraire. Ça s'intitule « Hamaltu l'wakta bayna ana mili ». Et vous voulez que je le dise en entier ?« Hamaltu l'wakta bayna ana mili bayna ahdabi ». وهمت أفتش عن غيم أفتش عن غيمة تحمل نغمي وترحل ثم أرحل أود لو يضيعني الوقت فأمضي أود لو يتوقف الزمن فأقف عند لحظة لحظة انطلاق وأمضي أود لو يأتي النسيان فيحماني إلى عالمي فيحملني إلى عالمي فأمضي عن وجودي أود لو يضيعني الوقت فأمضي دون قيد أو شرط إلى ما لا نهاية والغيمة تحمل نغمي وترحل ثم أنا أرحل. C'était écrit en 1980.
Tu peux nous commenter, Mehdi, en arabe?
Ma dit ma n'goul en arabe. Je sais l'arabe, c'est un arabe maghribi. La alaqa ma dak chi t'goul. Tu te fahmini chi chouya ou la walo? Walo.
Qu'est-ce que ça dit?
Non, tu es t'fahmini, mais t'fahminish.
Eh ben là, je comprends un peu en fait.
Ouais, voilà, c'est ça en fait. Du coup, voilà, c'est ce qui se passe. C'est que, en fait, quand je lui parle, il ne comprend pas. Et c'est de la même façon en fait qui se passe. En fait, c'est que tout simplement, on a des langues qui ont une certaine racine, mais qui sont tellement lointaines qu'au final, en fait, on se comprend pas. À moins que, voilà, on ait vraiment.
Moi,
par
fait
exemple, j'ai pas fait l'école en fait. Je veux dire, bah, quoique ça dépend en fait. Moi, je te comprendrais si j'avais fait l'école au Maroc en fait et que j'avais appris l'arabe littéraire.
Là, ouais. Ça veut dire que tu n'as rien compris.
Là, j'ai compris la vraiment la moitié de ce qui se disait. C'est-à-dire qu'il y a juste les mots en fait, par exemple, qui revenaient. Par exemple, daya qui veut dire perdre du temps, daya al-waqt. Donc là, c'était perdre du temps en fait. Donc là, je comprenais. Il y a vraiment certaines choses que j'arrivais à comprendre puisque ça ressemblait. Voilà, ce que j'utilise tous les jours, en fait, ce que je parle tous les jours. Mais sinon, au niveau vraiment de là, quand c'est du l'arabe littéraire, je demanderais plutôt à mes parents, en fait, de parler. Et encore, même eux, en fait, au final, en fait, c'est...
Est-ce que tu écris ou tu lis l'arabe ou...
Non, parce non, que du coup, pas j'ai pas fait d'accord. L'école, en fait, okay. Tout simplement. Donc, c'est vrai que ça devient...
Tammy, on va te remercier, mais je crois que tu reviendras à ce micro pour une autre chronique polyglotte. En l'année prochaine. Et donc, est-ce que Mehdi, tu échangerais plus facilement en italien avec l'ami Tiziano qui est ici?
Certo, c'est le problème.
Tiziano, tu es de père français, de mère italienne.
Exactement.
Mais tu parles couramment l'italien.
Oui.
Tu l'écris aussi.
Oui.
J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir puisque tu as traduit un petit texte de Perec.
Exactement.
Remarquablement. Donc j'avais envie de te faire parler italien avec Mehdi, bien sûr, mais aussi j'ai eu envie de te faire lire un livre qui s'appelle, tu peux nous en parler un petit peu?
Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, qui est un livre que je ne connais pas,
oui.
Mais dont j'ai vu le film lorsque j'étais petit et qui m'a beaucoup choqué à l'époque. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire et du coup, je vais vous lire un petit extrait.
Oui.
Non avevo idea di quanto faceva caldo. Uno a 9 anni di gradi centigradi se ne intende poco. Ma sapevo che non era normale. Quella maledetta estate del 1978 è rimasta famosa come una delle più calde del secolo. Il calore entrava nelle pietre, sbriciolava la terra, bruciava le piante e uccideva le bestie. Infuocava le case. Quando prendevi i pomodori nell'orto erano senza succo e le zucchine erano piccole e dure. Il sole ti levava il respiro, la forza, la voglia di giocare, tutto. E la notte si schiattava uguale. Ad acqua traversa gli adulti non uscivano di casa prima delle 6 di sera. Si tappavano dentro con le persiane chiuse, solo noi che avventuravamo nella campagna rovente e abbandonata. Mia sorella, Maria, aveva 5 anni e mi seguiva con l'ostinazione di un bastardino tirato fuori da un canile. «Voglio fare quello che fai tu», diceva sempre. Mamma le dava ragione. «Sei o non sei fratello maggiore?» E non c'erano santi, mi toccava portarmela dietro. Nessuno si era fermato ad aiutarla. Normale, era una gara. Voilà.
Grazie
prego,
mille.
Prego.
Ho amato questo libro molto e spero che ti piacerà.
Sì, penso di sì. Il film mi aveva...
Spero di vedere il film.
Sì, sì, sì.
Ah, non l'hai mai visto il film?
No, lui non l'ha mai
non
visto.
Non l'hai mai visto?
Non l'hai mai visto tu il film?
No, non l'ho mai visto.
È veramente bene, l'ho visto 2 o 3 volte.
Il resto... Quelques secondes, est-ce que tu peux nous traduire un tout petit peu pour nos auditeurs qui n'ont pas entendu ce dont il était question dans l'extrait?
Ouais, carrément. En plus, il m'a fait souffrir cet extrait parce qu'il parle de la chaleur et là, j'ai pas bu de la journée, donc j'ai vraiment souffert en écoutant j'ai même senti en fait les pierres chaudes et qui étaient limite en train de se détruire à cause de cette chaleur là en fait, ou même les tomates qui ont pas de jus ou les zucchines, donc
Les courgettes,
voilà, c'est ça. Les courgettes, en fait, toutes petites et dures, comme il disait, en fait. Donc, à cause de la chaleur. Même du coup, après, il parle de sa petite sœur, en fait. Où du coup, là, sa petite sœur, en fait, elle le suit tout le temps. Comme une
oui,
espèce,
ça se passe dans les champs de blé, dans le sud de l'Italie. Il fait très, très chaud. Et moi, je veux dire que chaque été, dans ma campagne, quand il fait chaud, je pense à ce livre. Je crois que c'est terminé. Grazie a tutti e due. On dit merci à Tammy.
Shukran.
Comment?
Shukran.
Ça, on l'a en commun, en tout cas.
Et arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Grazie.
Donc, nous aussi, nous remercions Tammy Issa, Tiziano Fucogini, Mehdi Largo, Claude Lottier. Merci à vous tous.
Moniki Elinel
Chronique polyglotte.
Pour introduire cette nouvelle pièce sonore, nous commencerons par vous lire ces quelques vers tirés d'une nouvelle de Maupassant, La Toux. Elle dormait. Mais soudain, une douleur intérieure lancinante, voyageuse, la parcourut. Cela commença par le creux de l'estomac et se mit à rouler en descendant vers les gorges inférieures avec un bruit discret de tonnerre intestinal. L'homme, l'ami nouveau, gisait, tranquille, sur le dos, les yeux fermés. Elle le regarda de coin, inquiète, hésitante. C'était l'histoire d'un vent de femme. Désormais, nous aurons droit à celui de vent d'homme et de sa triennale par Valentin Alizé.
Il y a 2 ans, on a décidé de créer un événement qui permettrait de rendre visibles les œuvres des artistes qui ont été aidés dans le cadre de ce qu'on appelle les aides individuelles à la création, qui sont donc des aides qui chaque année sont dispensées à des artistes sur le dossier, dossier examiné par une commission de différents professionnels qui existent dans toutes les régions de France. Et on trouvait bizarre que finalement, année après année, on subventionne des projets, on aide des artistes à démarrer parfois leur activité, et qu'on n'en voit jamais véritablement finalement la couleur. Et j'ai proposé finalement qu'on organise dans ce lieu une exposition tous les 3 ans qui regrouperait une sélection de ses travaux d'artiste, de ses œuvres, de ces projets qui sont aidés année après année. Notre première idée a été effectivement d'investir le manège Rochambeau, 1400 m². Donc, on est propriétaire de ce magnifique bâtiment qui s'appelle le manège Rochambeau, ici à Vendôme.
Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui a un passé en fait, donc qui a été manège pour les chevaux, et son passé est là, et encore très présent. En même temps, c'est un lieu qui sert de dépôt lapidaire à la DRAC centre. Donc il y a des pierres un petit peu de bâtiments historiques qui sont entreposés ici. Et donc c'est un lieu aussi qui est un bâtiment classé par sa charpente métallique placée sur des vérins, donc il peut bouger un petit peu en fonction de la tension du bâtiment. Voilà.
Effectivement, un espace assez magnifique, grand, 1400 m², donc qui permettait de montrer tout ce qu'on avait envie de montrer. Et puis d'un seul coup, on s'est dit qu'il fallait quand même tisser des liens avec l'urbain, avec la ville autour. On ne voulait absolument pas, et nous étions tous d'accord, DRAC et nous les commissaires, on ne voulait pas une manifestation qui soit une espèce de quelque chose qui descende du ciel, qui investisse un lieu et qui n'ait pas de lien avec les territoires environnants. Donc on a tout de suite demandé aux artistes d'imaginer des interventions dans d'autres lieux, c'est-à-dire dans l'espace urbain, dans ce qui était possible. Les contraintes étaient telles que ce volet-là n'est pas aussi grand qu'on le souhaitait au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de participation dans l'espace urbain qu'on le voulait, mais néanmoins, plusieurs artistes interviennent au musée, soit en piratant et en contaminant en quelque sorte les collections, soit en ayant un projet spécifique comme Saddam Afif dans une salle qui lui est dédiée. Quant à Plume et M. Incognito, qui sont deux personnes reconnues du Graf, ils ont interrogé les gens des quartiers nord, qui est un quartier un peu difficile, on va dire, par rapport au centre bourgeois de Vendôme. Et à partir d'un questionnaire et vraiment d'une médiation avec les habitants, ils vont totalement habiller et réhabiliter par un Graf gigantesque un bâtiment qui est à côté de la gare TER, qui s'appelle le bâtiment de l'Union, et qui est un ancien bâtiment type Francia en béton, abandonné depuis des années, un silo abandonné depuis des années, qui dans sa forme est magnifique et qui est dans un état d'abandon, délabrement complet. Et ça va devenir un signe urbain fort. Par ailleurs, et ça c'est important, on a demandé à l'ESSAD d'Orléans de concevoir une signalétique qui va irriguer, elle, toute la ville, avec des phrases de gens interviewés sur ce que peut être leur rapport à l'art contemporain. Et donc on va avoir quand même un habillage de la ville par plein de petits signes qui sont des signes de signalétique qui renvoient au manège Rochambeau et aux autres espaces. Et enfin, pour compléter, Catherine Radossa investit une maison au bord du Loir à partir d'une installation sonore qu'elle a réalisée à partir d'interviews d'adolescents qui souvent, dans leur trajet entre chez eux et le lycée, collège, transitent par cette maison qui est un peu la maison des amoureux. D'où la thématique chez elle de « Qu'est-ce que l'amour ?»
Je m'appelle Catherine Radoza, je suis ancienne étudiante des Beaux-Arts du Mans.
D'ailleurs, ça fait deux artistes issus du Mans, hein, puisque Mathieu Dufoy est un artiste de la Triennale qui a fait des études à l'école du Mans, et Catherine Radoza également.
Et donc, pendant mes études ici, j'ai développé pas mal de projets de la vidéoprojection dans l'espace public. Tout d'abord, surtout avec l'image, uniquement avec l'image. Puis, petit à petit, on a commencé aussi à intégrer le son. Donc, très particulièrement, c'était avec le projet qu'on a réalisé à Orléans sur la reconstruction de la ville d'Orléans après-guerre. Et là, on a intégré aussi la partie sonore. Donc, c'était à la fois projection grande image en deux écrans, mais aussi du son. Je trouve l'espace public intéressant aussi pour son aspect démocratique, pour le fait de sortir des murs muséales et d'intervenir avec l'art dans l'espace public, avec l'image autre que publicitaire qui est omniprésente dans les rues. Mais justement, donc j'avais cette envie d'intervenir aussi avec une autre image. Déjà, ce qui est assez magique, en effet, avec ces interventions dans l'espace public, c'est que le public est parfaitement différent. C'est un public aussi qui n'est pas averti, qui se trouve face à cette image un peu par hasard, en déambulant dans la ville. Donc il y a cette partie de surprise. Et concernant l'échange, bon, quand on assiste quand même à ces projections, c'est assez magique parce qu'on voit voilà, les gens s'arrêter face à cette image et amener une réflexion voilà, sur cette situation, cette expérience qu'ils vivent dans le moment présent, qu'ils y sont venus pour ça ou pas du tout. Et donc, si, justement, je pense qu'il y a quand même un échange justement assez précieux avec le public, qui est tout autre, évidemment, d'un espace muséal. Alors, ma participation à la Triennale de Vendôme, elle était... faite suite au projet en quelque sorte que j'ai fait à Orléans, justement dans la région centre. Et donc c'est un peu suite à ce projet que j'étais contactée pour la Triennale de Vendôme, et aussi avec cette idée d'intervenir dans l'espace public. Voilà, les organisateurs étaient intéressés par cette dimension-là parce qu'il y a un grand espace d'exposition qui est très beau dans le quartier Rochambeau, qui est tout complètement réinvesti avec une scénographie particulière, vraiment construite pour l'événement. Donc voilà, il y a cet espace d'exposition-là, mais aussi à côté, il y a quelques projets dans l'espace public, dont le mien, qui est à peu près à 60 mètres du lieu d'exposition. Et donc, c'est dans un passage, c'est une sorte de maison-passage au bord de l'eau, où j'interviens avec une installation sonore. Et pour ce projet-là, en fait, j'étais inspirée par le fait que les murs de ce passage sont marqués par les gravures dans les murs de messages amoureux. Et donc ça, pour moi, c'était un point de départ pour développer un projet sonore sur la représentation de l'amour et de la sexualité aujourd'hui, particulièrement avec une génération jeune, entre, voilà, disons, 14 ans et 17 ans. Donc moi, j'ai voulu travailler voilà, avec ces personnes-là, donner le contexte, le lieu qui m'a inspirée pour ça. Et la pièce donc va être un montage sonore en stéréo spatialisé qui va être composé par des témoignages donc de ces jeunes, à la fois individuels mais aussi en groupe. Donc il y a toute une discussion sur ce sujet de l'amour et de la sexualité et ses représentations aujourd'hui, avec un montage des extraits de films et des extraits littéraires. Moi, j'ai rencontré des jeunes à Vendôme dans un centre culturel du quartier nord de Vendôme qui est, a priori, qui est un peu particulier. Enfin, moi, ça m'a été présenté comme ça, que c'est un quartier un peu difficile. Mais en tout cas, la rencontre avec ces jeunes était extrêmement riche et généreuse. Et en fait, étrangement, ils étaient... pas du tout gêné de parler de ce sujet-là. Et on avait vraiment un très bon échange. Ça a très bien fonctionné. Tout le monde a voulu participer. Donc, c'était une très bonne surprise. Et puis, d'autre part, j'ai pu travailler avec des jeunes à Paris aussi, dans un collège, un collège Mallarmé, où j'avais une complicité d'une professeure qui enseigne là-bas et qui m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de pouvoir travailler avec ces jeunes-là aussi. Ces jeunes avaient une envie de rendre ces témoignages publics pour qu'ils suscitent justement une discussion. Alors, cette pièce s'appelle « Parlez-moi d'amour », tout simplement. Et elle va être présentée. Alors, c'était une grande question, évidemment. À chaque fois quand on intervient dans l'espace public, c'est particulier. Ça dépend beaucoup de facteurs. Et pour cette pièce-là, on a décidé de la présenter pendant les horaires d'ouverture, en fait, de la triennale. Aussi pour la raison que la triennale dure 5 mois. Donc, c'est une durée très longue. Et c'est pour ça que, voilà, qu'on s'est dit... que cette présence temporaire va être plus juste, même si c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'idée que la pièce puisse être là aussi dans la nuit et qu'on puisse tomber sur elle vraiment à n'importe quel moment. Je n'interviens pas uniquement avec cette installation sonore, mais aussi j'interviens pendant les 5 mois dans la publication d'un journal local qui s'appelle Le Petit Vendômois et qui m'a permis donc d'intervenir chaque mois par une publication d'une demi-page dans ce journal. Donc voilà, c'est une intervention que j'ai cherchée pour compléter en quelque sorte celle, la partie sonore, l'installation sonore. Et c'est aussi voilà, une intervention dans l'espace public, mais autrement, voilà, dans un autre espace, dans un espace de journal qui devient du coup aussi en quelque sorte un espace d'exposition en fait, mais voilà, éparpillé dans l'espace public. Pour le premier mois, la publication ressemble à un collage de lettres découpées dans les journaux et dans les magazines. Donc c'est un peu comme une sorte de lettre anonyme voilà, qui s'utilisait à l'époque. Donc moi je reprends ce style-là avec un message « Écrivez des lettres d'amour ». Donc c'est une invitation pour les lecteurs de m'envoyer, de m'adresser, bon, pas à moi, à personne, mais en tout cas de me faire passer des lettres d'amour.
Alors, je suis Dorothy Schuz. On me dit photographe, mais moi, je ne me considère pas vraiment comme une photographe. Je me considère davantage comme une metteuse en scène qui utilise le médium de la photographie pour raconter des histoires. Et en fait, la majeure partie de mon travail, c'est un mélange entre témoignage social et mise en scène plasticienne. Là, le travail que je présente, ça s'appelle Colère planquée. Colère planquée, c'est l'anagramme de sclérose en plaques. Donc c'est un travail réalisé autour de cette maladie qui est finalement très mal connue. La sclérose en plaques, on en parle... Enfin, l'image d'Épinal, c'est le fauteuil roulant, mais en fait c'est une maladie du système nerveux central. Et en ça, le risque, il est partout. C'est-à-dire que oui, on peut perdre ses jambes, on peut perdre ses bras, on peut perdre la vue. On peut perdre énormément sur le plan cognitif. Là, notamment, on va en parler après, mais j'ai rencontré un homme qui ne peut même plus écrire, qui ne se souvient plus des dates, et qui est voilà, qui confond les mots, enfin qui fait de l'orthophonie toutes les semaines, mais il est très très isolé. Voilà, et puis surtout pourquoi j'ai réalisé ce travail, c'est parce que je suis atteinte de sclérose en plaques, et je l'ai su la veille de mes 33 ans. Donc j'ai eu cette idée, plutôt que de pleurer sur mon oreiller, je préfère être dans l'action. Et donc je me suis dit, je vais demander à des femmes de mon entourage si elles veulent bien accepter, d'interpréter mes représentations et mes peurs liées à cette maladie dégénérescente. Et donc ce ne sont pas des modèles, il y a notamment une neurologue, une professeure d'économie, une professeure d'anglais, une écrivain, enfin voilà, il y a plein de personnes très différentes, une analyste fonctionnelle, enfin voilà, c'est très drôle. Donc j'en ai convié 33, c'est le chiffre vu que forcément mes 33 ans sont liés ad vitam aeternam à cette annonce du diagnostic. La plupart du temps, je leur montrais un croquis, pas toujours, mais sinon j'expliquais à chaque fois, je rédigeais en disant voilà, là on va travailler sur la honte, là on va travailler sur la vulnérabilité du corps, là on va travailler sur les étourdissements, là on va travailler sur la représentation de vers de terre qui rongent le cerveau. Enfin voilà, à chaque fois j'exprimais ça le plus clairement possible. Il y a des photos qui sont pas forcément très simple comme ça, enfin alors on sait pas forcément ce qu'elles évoquent, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Et il y en a par contre, oui, on est clairement de front avec le sujet. Mais bon, il y a le texte, enfin il y a un texte qui est présent aussi pour un peu guider le visionneur. J'ai eu deux aides à la création. J'ai eu une petite aide en 2010 et j'en ai eu une plus grosse pour ce projet en 2014. Et donc, si tu sais comment ça a fonctionné, en fait, sur les 100 ou 120 personnes qui avaient reçu cette aide les dernières années, ils en ont choisi 20. Alors, le travail sonore, déjà, il y a deux sources sonores. Il y a une source qui proposera en boucle une nappe de roues et de rouages pour évoquer cette peur du fauteuil roulant. Donc, ça, ce sera omniprésent. Et il y a d'une autre source sonore, des enregistrements que j'ai faits durant des séances de rééducation orthophonique d'un monsieur qui est comme moi, en fait, hein, qui a une sclérose en plaques, mais qui, lui, vraiment, sur le plan cognitif, est très, très, très lourdement abîmé. Et donc, on l'entend, enfin, évidemment, ça a été monté, mixé avec un ami ingé son qui s'appelle Cédric Chailloux. Mais ce qu'on entend surtout, c'est vraiment le langage qui mue, le langage qui devient très laborieux, la répétition, épeler les mots. On l'entend aussi tenter d'écrire, donc il y a ses gestes de feutre. Il essaie de faire des boucles, mais il ne peut plus faire de boucles. Donc c'est aussi assez dense. Ça fait un ensemble qui est assez violent, je pense. Mais c'est une maladie qui est assez violente et là tu me vois en face de toi et je sais bien que, et comme c'est normal et je n'en veux à personne, mais c'est là où cette maladie est très vicieuse, c'est qu'il y a ce facteur d'invisibilité, mais par contre les malades, nous on est vraiment malades et ça c'est difficile à faire comprendre aux gens. Par exemple la fatigue, moi j'ai besoin de dormir 12 heures par jour et tout le monde dit demain on commence à 9 et tout, je vais venir, mais pour moi c'est un peu plus difficile. La concentration aussi, le cognitif aussi, j'ai du mal à trouver mes mots, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Mais tu vois, là, quand je te parle, t'as remarqué, je regardais par terre, mais c'est pour vraiment rester concentrée. Mais moi, je le prends très bien. Et j'ai la chance, contrairement à beaucoup, beaucoup de gens et la majeure partie des gens, j'ai la chance de pouvoir transformer ma maladie et d'en faire quelque chose. Et je faisais de la photo avant, de la mise en scène avant, enfin, ça n'a rien changé. C'est seulement qu'au lieu de m'arrêter et me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est en fait je continue. Et donc maintenant ça fait partie de ma vie, mais comment je peux le transformer?
Alors moi c'est Émilie Pouzet, donc je suis artiste et on pourrait dire plasticienne. Danseuse, voilà, c'est mes deux médiums. Donc je travaille beaucoup avec le corps. Et puis Quentin.
Quentin Aura, je suis artiste. Je travaille énormément le son. C'est un petit peu ce qui fait que, principalement dans mon travail, le son, le rapport son-image, et puis après les choses qui découlent sur la création d'instruments, d'objets sonores, etc. On a fait les Beaux-Arts avec Émilie, on s'est rencontrés là-bas à Orléans. Ça s'appelle les SAD d'Orléans. On a commencé à travailler ensemble quand on était en troisième année. On s'est retrouvés sur des thématiques communes un petit peu au niveau de nos projets communs.
Par rapport au son séparément. Et au corps.
Et on a continué à travailler ensemble après, quasiment sans interruption, jusqu'à maintenant. C'est des travaux qui évoluent. Enfin, on a déjà fait plusieurs performances sonores, donc qui mettent en relation les caractéristiques physiques du corps humain avec la présence de courants électriques, principalement traverse le corps, qui crée des modulations avec des jeux de l'arsène, de feedback, tout ça. Donc créer des instruments un petit peu complexes comme ça et aussi très instables.
Et puis après, pour ce qui est de la triennale, en effet, on a par rapport au projet qu'on présente, donc qui s'appelle Pentatonique, qui est une installation sonore lumineuse où le corps intervient. Donc en fait, c'est autant une installation qu'une performance. Donc là, durant les 5 mois, il y aura l'installation mise en place. Le public pourra rentrer dans cet espace et plutôt contempler. Enfin, il y a quelque chose de très contemplatif, où le public il agit sans s'en rendre compte de manière directe. Et après... Parce que
le dispositif de porte atonique fonctionne avec des. En fait, il y a 5 haut-parleurs et 5 micros. Donc, c'est un dispositif électroacoustique. Il n'y a pas, pas vraiment d'autre chose que ça. En fait, c'est le phénomène du Larsen qui est exploité vraiment. On a essayé d'en tirer le plus possible de variations possibles, choses comme ça.
Ouais, c'est une exploration du Larsen.
Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un dispositif qui génère un Larsen constant avec un principe un peu polyphonique, donc qui crée plus ou moins un accord. Et le dispositif a une certaine. Il est un peu précaire au sens où il va vriller tout seul.
Voilà. Voilà,
c'est un petit peu, c'est quelque chose qui se maîtrise assez mal. Enfin, assez difficilement, et on ne cherche pas forcément à le maîtriser parfaitement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la dimension
entre le contrôle et la dépendance. Ouais.
À côté de ça, enfin, disons, parallèlement, il y a une activité lumineuse qui est générée en fait par l'analyse audio de certains paramètres qu'on a mis en place, etc., qui vient compléter en fait le résultat aussi de manière visuelle, voilà. Comme quelque chose d'un petit peu synesthésique. Voilà, dans l'approche.
Et puis sur le côté, il y a aussi une vidéo, donc sur le côté de notre structure du Pentagone, à l'extérieur. Et là, du coup, cette vidéo, c'est plus donc une trace. C'est la vidéo de la performance qui a été prise du haut. Donc c'est une vue, autant le public qui aura été à la performance ou pas, il aura une autre vue possible de cette installation. C'est un travail. On a pensé très visuel de toute manière dès le début. On a vraiment beaucoup d'attention au rendu visuel. Donc voilà,
il y a un document
ça rend compte de la performance sous cet aspect.
Puisque la Pentatonique, c'est un projet complètement hybride, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la partie performance et à la fois une mode installation.
Voilà.
Qui en fait fait la même chose sans le performeur. Et l'installation, voilà, est. Elle est présente et puis c'est pas spécialement interactif non plus, c'est-à-dire qu'on n'invite pas spécialement les gens à venir essayer.
C'est pour ça, oui, je te disais.
Mais malgré eux, si tu veux, ils vont influer sur le résultat puisqu'ils vont passer devant des haut-parleurs, ça va couper le son, ça va. Enfin, et ils vont pas forcément le sentir.
Ouais, hein. Voilà. Ils pourront, mais à la fois, puis ça peut se reproduire plus tard. Voilà, c'est vraiment un son qui s'étire, le phénomène du Larsen, donc très instable.
C'est quelque chose d'un petit peu. Génère une sensation de transe, quelque chose d'assez. En tout cas, nous, ça nous fait bien planer, ce projet, mais je pense que c'est assez important aussi de se faire plaisir dans les projets. C'est pas. Au niveau de la forme, on est à la frontière entre plusieurs disciplines, qui est à la fois la musique, voilà, donc avec la recherche de sons, d'instruments, comme si on créait un instrument, etc.
À la fois,
c'est vrai que la danse, le spectacle vivant, de faire large, puisqu'il y a une prestation à un moment avec une partie qui est plus ou moins chorégraphiée, qui n'est pas chorégraphiée, mais qui fait appel au corps, à une esthétique qui est plus proche de.
Là, on est dans la recherche du mouvement, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop parler de danse, mais parce qu'en fait, c'est vraiment lors de la performance le son qui me guide. Et du coup, c'est le son qui induit mon mouvement en fait et qui m'amène à une qualité de mouvement que j'aurais pas été chercher et que j'aurais pas pensé en fait. Donc on quitte un peu une sorte de maîtrise ou de technique mais en même temps c'est là que se situe la recherche. Et voilà, donc on a la frontière, c'est vrai.
Et à la fois les arts plastiques, puisque on est quand même dans une installation qui est aussi créée pour les. Pour être regardé, pour être vécu comme espace qui change, qui mute, etc.
Workshop volume et son, première année.
Je lui dis que demande si je suis malade, personne ne le sait. Si je suis malade, Il me dit que demande parce que j'ai eu l'argent. Il me dit que décidément, il n'a pas eu de chance pas à moi. Il me donnera quand même de l'argent. Il me dit tu es venu parce qu'il m'a dit que j'avais dormi. Il a vu que j'étais présent. Il n'a pas eu de chance avec moi. Il me dit d'attendre encore. Il me parle. Il dit qu'il m'a tout de suite. Dès la traversée du fleuve, que je serai ainsi après le premier rang. J'aimerais l'amour. Il dit qu'il sait déjà que lui, je le trompe. Et aussi qu'il dit que tous les hommes avec qui je serai. Il me serait ainsi après le premier rang. Que j'étais galère. Il me dit que c'est déjà que lui, je le trompe. C'est ça qu'il doit dire. C'est ça qu'on dit. Je laisse se dire, se faire. Il mettrait de l'espoir, des verres, aller chercher et trouver. Il dit qu'on se quitte l'amour. Et là, tout est fatigué. Il n'y a pas de dire, je vais faire. Les déchets sont encore faire et chercher. Il trouve dans le torrent. Et pour la sortie de l'eau, il a tout ses jours. Il n'y a pas de déchets. Il me dit que je me souviendrai toute ma vie de cette enfance. Même lorsque j'aurais oublié jusqu'à son visage, mais c'était prévu. Il me dit, regarde.
Même lorsque j'aurais oublié jusqu'à son visage,
regardez-la bien.
Oui, comme vous voulez dire, c'est ça. Comme
il me dit, c'est ça.
Il me dit de lui dire à quoi.
Je demande de lui dire à quoi. Je me dis qu'il en a moins de vie. Les réceptions sont grosses. Tout à coup, il me fait un roman sur les compartiments. Lui, il continue encore. Il me dit, le rose, votre mère,
il me dit que l'école marchait. Il me dit aussi qu'il avait un appartement, une auto, s'il disait la marque. Il me dit que le père est malade, que le jeune maître est reparti pour sa dette. Il me dit de continuer à mentir à ma mère, et surtout à mon frère aîné, de ne rien dire à personne.
Chronique Esbrouf, Bastien.
Bonsoir. Esbrouf reste et restera toujours le moyen de vous informer sur les inepties de la vie. Esbrouf, c'est l'histoire de deux couillons qui n'ont rien d'autre à foutre que de se foutre en pyjama tout en fumant des cigares, à longueur de journée dans une piole de 9 mètres carrés. Ce soir, c'est assez spécial car mon acolyte, ou plutôt mon alcoolique, n'est pas là. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Paul, donc, n'est pas là pour une raison toute simple. Hier matin, 14h, nous nous levons tous les deux dans le même lit pour des raisons qui nous sont purement personnelles. Donc, je disais 14h, nous nous levons. Je prends mon café, Paul, lui, prend un martini avec trois glaçons. Pour lui, la soirée commence. 14h30, le soleil qui passe par le Vélux nous emmerde sévère. Petit shoot d'eau de source pour ma part, Paul opte pour un grand shoot d'eau de vie pour se mettre dans le bain. Bain que je lui ferai prendre par la suite d'ailleurs. 15h, Paul parle tout seul et commence à chanter la Marseillaise en verlan. Je ne peux pas vous montrer l'atrocité de cet acte. Non pas que je suis un patriote né, mais tout de même les limites ont été dépassées à partir de ce moment. Je casse la croûte avec un sandwich jambon triangle beurre fondu. Ainsi, telle la Madeleine de Proust, cela me rappelle fortement, moi-même 24 heures plus tôt en train d'écrire une chronique Esbrouf sur BHL et Klaus Barbie Girl dans le TGV à côté des chiottes du train. Je vous laisse deviner l'odeur de la Madeleine que le banquier de première classe a lâchée sans scrupule. Et oui, la SNCF ne garantit pas la propreté de ses premières classes. Donc, Paul, à la même heure, c'est-à-dire 16 heures, ne mange pas et décide de se rafraîchir à la source. Il descend donc à la cave chercher le cheval blanc 88 que mon père m'avait offert pour mon baptême. Grand cru pour la bouteille, grande descente pour le petit con. Paul commence à me faire des sourires niais, sans raison et sans classe. Je ne ris pas. 17h, je lui rappelle que nous devons présenter une chronique ce soir. Il crie « T'inquiète, chouchou Mireille !» Je ne m'appelle pas Mireille. Je suis vexé et bois la dernière bière en le regardant et en lui souriant sur notre terrasse de 2 mètres carrés. Paul n'est pas content et décide de bouder. Il pleure. Je ne le réconforte pas. 17h15, je pars pisser aux latrines. Et au retour, je le trouve tout feu, tout flamme, sautillant de joie avec la fin de ma bière. 18h, Paul titube sérieusement. Je décide de lui faire faire son bain dans la salle de bain commune que l'on partage avec deux Roumains et deux Polonaises qui sont, je tiens à le préciser, âgés de 50 ans et Gwyn. Ne vous excitez pas. Il insiste pour amener une bière dans le bain en pensant qu'il y en avait encore. Je lui rappelle qu'il n'y en a plus pour lui dire que l'on a une chronique aussi. Il me regarde vide, sans compréhension de sa part. Il a trouvé le bain drôle et a tout simplement fait des bulles pendant une heure. 19h30, je me prépare pour aller en ville. Paul prend la bière vide en tant que doudou pour dormir. Je le réveille et force à se lever. 20h, par chance, Paul a eu un élan de courage, malgré son haleine qui aurait pu le faire reculer de 10 mètres s'il avait expiré très fort. Il demande par la suite un alcotest pour prendre le tramway. Descendant l'escalier, je me demande si cela valait le coup d'emmener un homme ivre dans le tram, puis dans la radio au risque de bousiller du matos avec sa bile. Je tente le coup. Par la suite, les fameuses expirations de Paul nous permirent de dégager de dégoût tous les piétons sur notre route. 20h15, je perds Paul dans la rue de la soif. Le dernier tram pour la radio arrive, je le vois au loin avec Dédé et Michel au café du square. Je m'énerve et décide d'y aller tout seul. 20h25, je rentre dans l'école et j'explique aux collègues ma situation. Ils me rient au nez, me disent texto. T'as qu'à te démerder, l'autre soir tu étais à sa place et lui à la tienne. Je leur fais un clin d'œil pour leur montrer que je vais gérer ma race. Au fond, je pleure. La complicité entre chroniqueurs est d'une beauté sans égale. Et en ces temps de grâce mat 2015, je vous souhaite une merveilleuse et sobre soirée au sein de Radio On.
Workshop. Volume et son. Première année.
Elle m'a laissé faire, j'étais trop impatient. Je lui ai mis la main sur la bouche, elle a suppliré dans le noir, elle avait une chaleur de four. Je lui ai tendu la pelouse, c'était tiède, j'ai remonté vers le nord, j'ai levé ses jambes. On a fait l'amour de temps en temps, puis tout le temps. J'étais à bout de nerfs, on s'est affalé dans le dortoir, je lui ai rasé le temco. J'ai vu une fourmi qui disait « On prend la route tout de suite !»
Je traversais un cul-de-sac au ralenti, pendant que Dieu, tanné et bourré, et dénigre. L'ouane était douce, elle tournait ses déluges sur le trottoir. Soudain, je m'engouffre dans un bled en plein phare. J'aurais bien voulu être encore sur cette route, transformée en bourbier. Je suis triste, on se serait entrechoqué sur le pare-brise, ça aurait pris 30 minutes. Elle aurait glissé en un clin d'œil, assise sur moi. En ce moment, j'étais à des kilomètres. Nostalgie, que faire? Rouler pour les retrouver ou rouler vers Victoria?
Jack, il s'est écrié un point dans un enfant et c'est le bazar. Neil, il est parti lui absorber la serviette. C'était beau. Moi, j'ai sorti la bestiole et j'ai sauté. Illico. Une blinde aiguë dans la nuit. Une bourrade de chaque côté. C'était business, business. C'est tout juste sur rentrer pendant un milliard, mec. L'heure de folie. Grégor, il a donné un coup dans le jardin, comme nous, avec enthousiasme. On lui a rafraîchi le visage et on est parti.
Quant à toi, t'as qu'à tenir compte des quelques actus de Corbu. L'architecture en tactique d'attaque, mec, si tu nous rates, tu craques, tu prends des claques. Prends tes clics et tes claques, ton sac et tu te casses. T'es pire que Rascar Capac, tu capes pas que l'archi, ça claque. Cliché, plastique, musique, Baker a cappella. David, bonjour.
Bonjour.
Ne mettez plus les micros dans les bouches.
David, tu viens donc nous parler de l'actualité corbusienne, de Charles Boëb et de Savina, je t'en prie.
Oui, alors évidemment aujourd'hui, enfin plutôt cette année, c'est une année très particulière pour l'actualité de Corbu, puisque c'est le cinquantenaire de sa mort, donc je pense qu'on est très très peu nombreux dans cette salle ce soir à être contemporains de Le Corbusier, puisqu'il faut avoir 50 ans ou plus. Donc voilà, levez la main les plus de 50 ans, voilà. Et je vous propose donc ce soir de vous parler de deux événements très différents, mais en même temps qui évidemment se collent à cette actualité. D'abord un événement dont je suis un peu responsable, et puis un autre dont je ne suis pas du tout responsable. Donc un livre et puis une exposition. Je vais commencer par vous parler donc de Charles Boëb, Ronchamp, Le Corbusier, qui est un livre de photographie donc de Charles Boëb. Charles Boëb a été découvert il y a très très peu de temps. Grâce à une photographie, une carte postale, puisque vous savez peut-être que je suis un grand collectionneur de cartes postales de l'architecture donc du XXe siècle. Et j'ai posté sur mon blog tout simplement une carte postale représentant une chose absolument hallucinante, une petite fille en contre-plongée devant Ronchamp. Et il se trouve que cette carte postale était de Charles Boëb. J'ai nommé Charles Boëb sur mon blog, car il faut toujours nommer les photographes. Voilà, toujours, toujours, toujours. Et par chance, j'ai eu le bonheur de rencontrer, grâce à cette photographie, deux des filles de Charles Boëb, dont notamment Emmanuel Boëb, qui possède en fait l'ensemble des clichés de son père, Charles Boëb, qui était journaliste pour les mines d'Alsace, les potasses d'Alsace à l'époque, et qui faisait donc des reportages, et qui avait la chance de connaître l'un des abbés qui s'occupait de la construction du projet de la chapelle de Ronchamp, de Le Corbusier, qui a donc réalisé une chose absolument hallucinante, puisqu'il a réalisé plus de 900 clichés de la construction de Ronchamp. Et pour évidemment un aficionados de Corbu comme moi, découvrir un fond photographique de cette ampleur-là, c'est tout simplement extraordinaire. L'autre chose évidemment qui est extraordinaire, c'est la qualité des photographies de Charles Boëb, puisqu'on pourrait avoir un fond photographique qui ne soit pas intéressant. Or, on est tout à fait saisi, je me rappelle très très bien de ce moment de sidération lorsque Emmanuel Boëb nous a mis les albums sur la table à la maison à Orléans et que nous avons vu défiler cette série de clichés de Charles Boëb. Une série en particulier est absolument remarquable, c'est la série que Charles Buab a fait avec une déesse, qu'il a fait poser comme Brigitte Bardot devant une caravelle. Hein. Il a utilisé une déesse, alors un mystère tourne un petit peu autour de cette déesse, est-ce une déesse familiale ou pas? La famille elle-même ne sait pas trop, donc on passera sur ce détail. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que donc en 1953, 55, 56, poser une déesse devant, jouer avec la plasticité d'une déesse devant Ronchamp, c'est évidemment évoquer un livre que l'on connaît tous qui s'appelle « Les mythologies de Barthes » et qui voilà, permet aux photographes, sans le savoir évidemment, c'est ça qui est très beau, sans le savoir, de travailler avec ce type de référence-là. Deux objets totalement différents, une déesse qui est une voiture fabriquée, industrialisée, et puis un objet quasiment fait au tour de potier, hein, comme j'aime à le dire dans mon texte, qui est l'église de Ronchamp. Ce choc des deux objets est absolument inouï. Je vous invite évidemment à aller regarder les photographies dans le livre qui est donc à la bibliothèque, qui est disponible. Donc voilà, les étudiants vont se précipiter, j'imagine, pour aller voir les qualités plastiques de ce photographe. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que c'est toujours intéressant de découvrir un fond photographique. C'est toujours une chance, c'est toujours une opportunité. Et là, la chose remarquable, c'est que ça vient d'une carte postale, c'est-à-dire d'une image populaire. On a donc un photographe totalement inconnu qui fait un travail remarquable et qui laisse son fond s'éteindre, malheureusement, un petit peu. Il n'a pas eu la chance, M. Buab, de voir ce livre. Il est mort en 2007. Et c'est un bel hommage qu'on a voulu lui rendre avec mes deux autres complices, qui sont Julien Denada et Grégoire Homfort, qui se sont occupés de l'édition du livre. L'autre actualité, évidemment, qui est tout proche d'ici, et évidemment les étudiants connaissent ce lieu, c'est Piacé, qui est situé donc entre Le Mans et Alençon, pardon. Et tous les ans, il y a ce qu'on appelle la quinzaine radieuse à Piacé. Piacé, c'est une toute petite ville dans la Sarthe qui a eu la chance de voir Le Corbusier passer ici et projeter de faire une ferme radieuse du même modèle que les cités radieuses. Malheureusement, tout cela n'est resté qu'un fantôme architectural. Mais grâce à l'énergie de Nicolas Hérisson et de plein de volontaires, la ville de Piacé se réveille tous les ans pendant la quinzaine radieuse et propose des manifestations, des activités artistiques d'art contemporain, de design, autour donc de l'héritage de Le Corbusier et de Norbert Bézard, qui était le céramiste qui travaillait à Piacé et qui était donc un ami de Le Corbusier. Cette année, une exposition absolument exceptionnelle. Je tiens à le dire, c'est vraiment exceptionnel les pièces qui sont actuellement à Piacé, puisqu'on a tout simplement des originaux, des sculptures et des dessins originaux de Le Corbusier qui sont montrés à Piacé. Et on peut voir donc comment Joseph Savina, qui était le sculpteur de Le Corbusier, une autre histoire de rencontre avec Corbu. On voit que Corbu aimait beaucoup les artisans, hein, comme Bézard et Savina. Et Savina, c'est un sculpteur breton, en fait, hein, qui faisait du meuble, voilà, et qui un jour a eu l'idée de faire à partir d'un dessin de Le Corbusier une sculpture, et qui a eu l'intelligence d'envoyer cette photographie, une photographie de cette sculpture qu'il avait réalisée à Le Corbusier. Le Corbusier a été ravi, absolument ravi de cette sculpture, et il a décidé de faire faire toutes ces sculptures par ce sculpteur breton, voilà, donc des sculptures en bois polychrome qui sont absolument magnifiques. Donc je vous invite à aller les voir à Piacé. La chose que soulève, qui est très intéressante avec le rapport Joseph Savina Le Corbusier, c'est le rapport de traduction, évidemment, puisqu'on a quelqu'un qui traduit des dessins des dessins qui sont traduits en trois dimensions, en volume. Et donc ça, c'est très très intéressant de voir comment l'artisan s'approprie le dessin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'est pas lui. Évidemment, ça rejoint pour moi des questions autour de l'estampe et de la traduction en estampe, hein, d'un dessin. Voilà comment on traduit quand on n'est pas l'auteur d'une image. Et puis, l'autre chose aussi que ça soulève, c'est évidemment cette histoire d'amitié, hein, entre le plus grand architecte du XXe siècle et puis un artisan. Voilà. Et ça prouve, je pense, très 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 bien les relations humaines que pouvait avoir Le Corbusier. Je sais qu'aujourd'hui que Le Corbusier cette année est particulièrement attaqué, mal à propos, et je pense qu'il est très très bien d'aller voir l'exposition à Piacé, parce qu'il y a une très belle lettre à Piacé où Le Corbusier se fâche contre son galeriste parce que le galeriste oublie de nommer Savina dans l'exposition, et cette lettre prouve l'attention que pouvait avoir Le Corbusier aux gens qui travaillaient pour lui, et pas le contraire, comme on pourrait l'entendre malheureusement beaucoup en ce moment. Voilà, donc je vous invite à suivre ces deux actualités corbusiennes qui sont très proches d'ici. Voilà.
David, je ne sais même pas quoi rajouter. C'était très bien. Merci beaucoup.
Merci.
Et à une prochaine chronique, j'espère.
Et bien sûr, oui.
Il y a intérêt. Très bien. On va conclure cette émission, du coup. Ladies and gentlemen, une grande première qui clôturera la 27e émission de Radio On, du jamais vu, du jamais entendu, 30 minutes de show, de Brigitte Fontaine à Dalida.
Mais avant ça, Twist and Shout.
You know, as long as I've known him, everything works for him. There's nothing he can't handle. I can't handle anything. School, parents, future. Ferris can do anything. I don't know what I'm gonna do.
College.
Yeah, but to do what?
What are you interested in?
Nothing.
Me neither. I'll be the shade.
Dark the shade. You're crazy!
What do you think Ferris is gonna do?
It's gonna be a fright for Venus.
We'll take it up, baby, now. Take it up, baby. Twist and shout. Twist and
David, de toutes mes excuses, tu avais prévu de passer en effet la chanson Twist and Shout, la folle journée de Ferris Bueller de Josephine Baker, et je t'ai... Non, pas du tout. Et je...
non, c'est
et
pas
je...
grave.
Et je t'ai coupé avant la fin, en effet. Est-ce que tu peux juste nous désannoncer un petit peu ça?
Oui, bah, très rapidement. Donc, la folle journée de Ferris Bueller est un de mes films absolument favoris que j'ai eu le plaisir de redécouvrir il n'y a pas tellement longtemps, en fait. C'est un film de 1986 d'un réalisateur qui s'appelle John Hughes. C'est un teenage movie absolument incroyable dans lequel un adolescent apprend à un autre adolescent qui va devenir artiste. Voilà. Et donc, c'est un très, très beau film avec ce très beau passage, Twist and Shout. Voilà.
Merci beaucoup David et désolé encore de t'avoir coupé.